Chapitre 2, les paradoxes des sciences humaines. On appelle paradoxe une situation qui est contraire à l'opinion, c'est-à-dire contraire à ce à quoi on pouvait s'attendre et, de manière générale, qui peut faire problème pour la représentation, la compréhension, voire la discussion. On connaît des paradoxes dans tous les domaines de l'expérience. Le premier paradoxe sur lequel discutaient les sophistes, c'est par exemple le paradoxe du mouvement de l'infini, paradoxe de Zénon d'Élée sur cette flèche qui n'atteindra jamais son but parce qu'elle doit parcourir la moitié de la distance jusqu'à son but, puis la moitié de cette distance et ainsi à l'infini. En ce qui concerne les sciences humaines, il est clair que dès qu'on y réfléchit, on tombe sur un certain nombre de paradoxes. Je vais essayer de les regrouper sous trois thèmes. Premièrement, l'idée souvent répandue, y compris dans les histoires des sciences humaines, selon laquelle les sciences humaines sont nées au XIXe siècle. Deuxièmement, l'idée que ce n'est pas l'homme qui est l'objet des sciences humaines. C'est la thèse développée par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Troisièmement, la thèse très souvent répandue aujourd'hui, en particulier par tous ceux qui soutiennent le slogan de la naturalisation, sur laquelle nous reviendrons, idée que les sciences humaines sont encore à naître, qu'elles vont bientôt naître ou qu'elles commencent à naître, en quelque sorte qu'elles sont incoatives. Alors, revenons sur le premier paradoxe. Il est clair qu'on peut lui trouver des fondements empiriques. Dans la première conférence, je notais bien le problème du passage du normatif au descriptif et la façon dont s'y prenait, par exemple, Montesquieu. D'autres éléments sont aussi caractéristiques. La sociologie. Le nom n'existe pas avant qu'il soit créé par Auguste Comte, qui envisage une science nouvelle de la société. Dans d'autres cas, je pense à la psychologie, il s'agit d'un changement profond. La psychologie, chacun sait qu'on se préoccupe depuis Aristote d'un objet. Aristote en a fait un traité, le péripsychès de l'âme, qui est justement l'étude des principes qui préside à des aptitudes, dont, effectivement, la vie intellectuelle. Or, de quoi traite la psychologie avant, je dirais, la deuxième moitié du XIXe siècle? Elle traite de l'âme, mais de l'âme comme entité immatérielle. Et le ton même que l'on donne à la psychologie, c'est celle que l'on retrouve chez le philosophe allemand Wolf, c'est la psychologie rationnelle, dont Kant, dans la Critique de la raison pure, a montré qu'elle n'avait pas d'objet, puisque justement, contrairement à l'ensemble des représentations scientifiques que nous construisions, il ne pouvait s'agir de quelque chose qui se saisisse dans l'expérience. Il n'y avait pas moyen de construire des concepts qui rencontrent un contenu matériel. À cela s'ajoute l'idée que si l'on veut atteindre l'intériorité, savoir ce que c'est qu'un sentiment, que c'est que la souffrance, il faut que l'observateur se confonde avec celui qui observe, Et depuis la naissance de la méthode expérimentale, qui justement recevra ses règles au XIXe siècle avec Claude Bernard, on sait qu'effectivement, les deux doivent être distincts. Alors, la psychologie deviendra une discipline expérimentale dans des laboratoires allemands du dernier tiers du XIXe siècle, avec même la formulation de lois mathématiques, comme cette fameuse loi de Weber et Fechner, qui fait de la sensation une fonction logarithmique de l'excitation. C'est cette loi que critiquera Bergson dans Les données immédiates de la conscience. Donc, méthode expérimentale, mathématisation, si on prend le prototype des sciences de la nature, il est clair, effectivement, que nous avons, au XIXe siècle, les racines d'un changement. Mais penchons-nous un petit peu plus sur cette question, avec en arrière-fond une interrogation. Se peut-il que jamais il n'y ait eu de construction rationnelle ou de réflexion sur la constitution des sociétés humaines ou le comportement humain? Dans le fond, lorsque Aristote s'intéressait aux constitutions, par exemple à la constitution d'Athènes, est-ce qu'il ne faisait pas quelque chose qui est justement à l'emplacement où se situera une partie de la sociologie, une autre partie étant effectivement de l'observation politique? L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la linguistique. On nous dit que cette discipline est née au XIXe siècle. Bien entendu, chacun sait que nous avons des préoccupations, des représentations, des discussions sur le langage, voire un corps canonique de connaissances, depuis l'Antiquité. L'opposition entre le verbe et le nom remonte à Platon et Aristote. Les parties du discours, les premières grammaires datent du IVe siècle avant notre ère. Il s'agit de la Technae Grammaticae, par exemple, de Denis Crasse. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au XIXe siècle? On s'intéresse à la diversité des langues et à leur histoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on forge, au début du siècle, le mot linguistique, qui n'existait de façon sporadique que chez les bibliothécaires à la fin du XVIIIe siècle. Quelle différence voit-on entre la grammaire antique, voire la grammaire médiévale, et la grammaire traditionnelle, et les sciences du langage? Encore une fois, c'est l'opposition entre le normatif et le descriptif. La grammaire énonce des règles, de façon pas toujours très directe. Parfois, ce sont des listes, des paradigmes, mais d'une façon tout à fait claire, la grammaire se propose d'indiquer comment il faut parler pour parler correctement. Au cœur de la grammaire, il y a l'idée de la phrase correcte et de la faute, qu'il s'agisse du solécisme ou du barbarisme qui ont été caractérisés par les grammairiens antiques. Les sciences du langage, telles que leur orientation se dégage au XIXe siècle, ont pour objet l'histoire des langues et leur regroupement par famille. On avance des explications historiques, savoir que telle forme aujourd'hui, par exemple en allemand, Nachtigall, le rossignol, s'explique par des formes du passé. En ancien haut allemand, le génitif de Nacht est Narti, et par conséquent, Nachtigall, c'est le coq de la nuit avec un génitif bien formé. On donne des classifications des langues. C'est là qu'on va voir naître l'idée d'indo-européen et de reconstruction même du proto-indo-européen. Par conséquent, on voit bien que ce qui change, c'est la caractérisation massive de nouveaux objets, la société. C'est la façon d'aborder certains phénomènes. On passe du normatif au descriptif. C'est le cas des sciences du langage. Ou encore, l'introduction d'une méthodologie expérimentale qui effectivement s'apparente à celle des sciences de la nature. C'est le cas de la psychologie et de l'apparition des laboratoires. Bon, qu'il y ait une mutation. D'accord, ça va de soi. C'est l'état normal des sciences que d'avoir une histoire. Que de nouveaux objets apparaissent, on verra que c'est aussi là une caractéristique essentielle des sciences de l'homme. Pourquoi ? Il ne pouvait bien évidemment pas y avoir d'études, de spéculations du marché avant qu'il y ait du marché. Et par conséquent, les objets de l'économie sont les objets dus à la constitution de la société moderne. De la même façon, si Auguste Comte s'intéresse à la société dans son ensemble, c'est parce que la massification, la densification des populations, la taille des États ont changé absolument la façon qu'avaient les individus de se représenter dans leur insertion par rapport à une communauté. Les méthodes changent. Évidemment, entre la grammaire qui peut à la limite reposer sur la compétence d'un individu, qui en fait le fait rarement, il faut cumuler des exemples, il faut avoir une réflexion, construire des représentations de notre langage qui soient canoniques pour pouvoir travailler. Mais enfin, admettons que la compétence suffise, elle n'a rien à voir avec l'histoire des langues qui s'intéresse à des phénomènes passés qui ne peuvent être recensés qu'à l'aide de recherches dans les manuscrits, sur les inscriptions, donc avec la construction de grands corpus historiques. Est-ce que ça suffit pour justifier l'apparition moderne des sciences dites humaines? Au regard de l'historien, certainement pas. Si on se passe, si on se penche sur le passé de notre réflexion scientifique, on s'aperçoit que dans toutes les sociétés, où il y a eu mise à disposition de l'écriture, on voit apparaître l'embryon de disciplines qui, par la suite, donneront consistance à ce que nous appelons des sciences. Il s'agit des mathématiques, il s'agit de l'astronomie, je dis bien de l'astronomie, celle qui s'occupe du mouvement des étoiles, de la composition du ciel, de la place des étoiles, des planètes, etc., et non pas de la physique. C'est un petit peu plus compliqué, Et on peut dire quand même que la physique d'Aristote est extrêmement lacunaire et très éloignée dans les concepts qu'elle manipule de la physique moderne et de la science du mouvement qui va constituer le cœur, noyau de la discipline à partir du XVIIe siècle. Mais à côté de ces deux disciplines qui concernent, si on veut, les sciences de la nature, il est tout à fait clair que dans ces mêmes sociétés, on voit apparaître deux choses, des éléments de linguistique et des éléments d'administration des sociétés, voire de droit. C'est évident que dans ces sociétés, il fallait régler la prise de pouvoir, l'exercice du pouvoir, la répartition des biens, leur transmission, etc. Et ça donne lieu à des premiers corpus qu'on peut considérer comme la naissance du droit et de l'administration. Il en va de même en ce qui concerne les sciences du langage, qui sont probablement l'une des disciplines les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Il y a science du langage, au moins sous forme embryonnaire, lorsque on donne les règles de construction de l'énoncé et lorsque l'on dispose d'un métalangage, c'est-à-dire d'un noyau de concepts rationnels qui permet de les représenter. Alors, bien entendu, ça n'est pas tout d'un coup. Je dis l'opposition entre le nom et le verbe, pour qu'elle soit clairement caractérisée, il faut attendre le Platon du sophiste et plus encore l'Aristote des catégories. Mais enfin, au tournant des troisième et second millénaires avant notre ère, nous voyons apparaître dans des bilingues sumériens acadiens des paradigmes, par exemple la succession des pronoms, la succession des conjugaisons de verbes et les premiers mots techniques, donc les premiers concepts pour désigner des phénomènes proprement linguistiques. Alors je crois que il serait extrêmement superficiel d'imaginer que les sciences humaines sont nées brutalement comme ça au XIXe siècle, du désir qu'avait le polytechnicien de faire de la sociologie une physique sociale. Il y a sciences humaines à partir du moment où il y a représentation codifiée des phénomènes afférents à l'action humaine. Alors, il y a des changements. Le changement du descriptif au normatif, qui paraît essentiel pour les sciences du langage, est-il aussi important que cela? Je ne le crois pas. C'est vrai que dans les grammaires, il y a des règles. Comme je le disais tout à l'heure, elles sont parfois implicites. Si on vous met un paradigme, par exemple le verbe aimer, hein, on vous le conjugue, il sert de règle dans la mesure où il vous suffit de séparer le radical des terminaisons, de remplacer ce radical par un autre radical du même groupe, et vous voyez déjà tous les concepts et toutes les représentations qu'il a fallu construire pour comprendre cela, pour que vous puissiez, à partir de votre paradigme, conjuguer n'importe quel verbe. Donc, un paradigme, c'est déjà virtuellement une règle. Mais une règle, c'est vrai, c'est une prescription. Pour faire un pluriel en français, il suffit d'ajouter un S au substantif. Il faut ajouter un S au substantif. C'est la règle. Est-ce que c'est normatif? Certes, ça en a la forme, ça en a la syntaxe. Mais si je transforme ma phrase normative dans la phrase suivante, en français, le pluriel est exprimé par la terminaison S. Je suis passé à la description. Et il est clair que le contenu est le même. Autrement dit, nonobstant le changement de syntaxe, il n'y a pas abandon du contenu quand on passe de la norme à la description. On change simplement la présentation de ce contenu. Je crois qu'effectivement, l'idée que les sciences humaines sont nées au XIXe siècle repose sur un mythe positiviste et sur l'ignorance de l'histoire longue des sciences humaines qui sont nées au moins en même temps que les sciences de la nature et qui, pour certaines, préexistent à certaines de ces sciences de la nature. Je veux dire que la grammaire est bien antérieure à la physique moderne qui sert de modèle à notre conception de la scientificité. Alors, effectivement, ce mythe ne mérite pas qu'on s'y attarde, si on veut comprendre comment fonctionnent les sciences humaines et de quoi elles parlent. Si on veut comprendre qu'il y a une réflexion de type scientifique qui intéresse l'humanité par rapport au fonctionnement des sociétés. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on a discuté de la façon d'accéder au pouvoir et de l'exercer légitimement bien avant le 19e siècle. Donc, si nous voulons savoir ce que sont les sciences humaines, il faut faire table rase de ce mythe de leur naissance au XIXe siècle. Le second paradoxe, c'est effectivement ce problème de placer l'homme au centre des sciences humaines. Quand on dit qu'on place l'homme au centre des sciences humaines, on se contente de reprendre la définition de la praxis ou de la poiesis selon Aristote. Avec les sciences humaines, ce qui est concerné, c'est l'action humaine et donc l'homme comme acteur. Et par conséquent, l'homme comme sujet. Évidemment, lorsque au XIXe siècle, on fait de la linguistique historique, qu'on décrit le changement qui nous mène du proto-indo-européen commun à une diversification des langues, et en particulier au sein de toutes les langues indo-européennes, à la diversification du groupe des langues germaniques, on va parler de loi phonétique. C'est Grimm qui, le premier, en 1822, en élabore le concept à propos justement des langues germaniques. Il explique par exemple que là où il y a peu dans les langues d'indo-européennes, par exemple pater en grec, patar en sanskrit, pater en latin, qui était repris dans les langues romanes, père, eh bien, il y a un fa dans les langues germaniques. Vater, father, fratar, etc. Eh bien, ce changement phonétique, effectivement, nous n'avons pas besoin, pour le constater et pour le décrire, de recourir à un quelconque sujet. D'où l'idée qu'il y a des entités qui sont les langues et qui peuvent se constituer comme l'objet propre des sciences du langage, avoir leur légitimité en elles-mêmes et leur fonctionnement expliquée en soi. On peut avoir le même type de raisonnement lorsqu'on prend une discipline plus moderne, hein, puisqu'elle date pas du 19e et plus spécialement du début du 20e siècle, comme la psychanalyse. Nous traitons de l'inconscient. C'est-à-dire que nous essayons d'expliquer comment certaines actions des êtres humains, qui justement échappent à leur volonté, à leur contrôle, à ce que serait leur liberté, eh bien, se trouvent causées dans des processus qu'on pourrait appeler automatiques, mécaniques, et auxquels le sujet humain, en tant que justement il est une conscience, n'a pas accès. D'où l'idée, hein, de dire que les sciences humaines, et je parle de celles que nous venons de caractériser, ont pour objet les langues, ont pour objet l'inconscient, et puis si je passais à l'économie, je dirais, par exemple, ont pour objet la circulation des richesses. L'être humain, en tant que tel, en tant qu'il est ce sujet dont je parlais au départ, effectivement, n'est pas une instance explicative, et j'ajouterais qu'il est même extrêmement douteux que, à partir de ces différentes sciences humaines, on puisse reconstituer quelque chose qui soit l'être humain. Autrement dit, on a dissous l'identité originaire de la nature de l'homme, de l'objet homme, au profit de champs d'objets plus abstraits et dans lequel finalement l'homme, au lieu d'apparaître comme l'instance originaire et explicative, n'apparaît plus que comme un épiphénomène. Alors cela, sans doute, est extrêmement vrai et nous donne l'idée qu'au-delà de ce que nous sommes comme sujet dans notre conscience, il y a des régulations qui relèvent de structures qui ne sont pas conscientes, mais qui sont effectivement contraignantes. Ceci dit, il faut faire extrêmement attention à ces conclusions. C'est vrai que ce type de domaine existe, de même qu'existent les phénomènes collectifs, je veux dire qui ne sont dus à aucune volonté individuelle qui concerne la sociologie. Mais il n'en demeure pas moins que il y a quantité de domaines où nous sommes obligés de recourir à l'idée d'un sujet conscient, enfin, qu'on se construit un sujet abstrait. C'est par exemple le cas en microéconomie. C'est le cas, si nous voulons étudier la façon dont se comportent les individus les uns par rapport aux autres, etc. Autrement dit, certes, il serait inexact au sens propre de la constitution d'un objet de dire que les sciences humaines n'ont pas l'homme pour objet, mais il est tout à fait clair que la définition phénoménale qu'on en donnait, à savoir ce qui nous intéresse quand on fait des sciences humaines, c'est le domaine empirique qu'on peut observer de l'action des hommes, eh bien, cela demeure valable. Mais ça n'apporte pas avec soi plus d'explications. Par contre, ça pose quand même certaines limites entre la science des comportements humains, par exemple, et l'éthologie animale. J'y reviendrai avec le problème de la naturalisation des sciences humaines et, je dirais, le programme de la sociobiologie. Le troisième paradoxe, à savoir que la scientificité des sciences humaines est à venir, bon, là repose effectivement sur, j'aurais été tenté de dire un malentendu, mais je crois qu'il faut carrément dire une incompréhension du domaine des sciences humaines. Je suis sûr que nous sommes tous capables de citer des inventions dans le domaine des sciences humaines. Je vais y revenir incessamment. Mais, par exemple, nous sommes capables de dater quand est apparu le concept d'imparfait. Nous sommes capables de dater quand est apparu le concept de démocratie. De même que nous sommes capables de concevoir que si nous n'étions pas capables de dater la découverte de la loi d'étude des corps, il n'y aurait pas de physique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on veut dire que les sciences humaines sont à venir? D'abord, quelque chose d'extrêmement superficiel, on semble imaginer qu'il puisse y avoir des disciplines sans histoire, qu'il puisse y avoir quelque chose qui se renouvelle à chaque génération. Deuxièmement, on semble supposer que la méthodologie des sciences de la nature, appliquée à des objets phénoménaux, hein, comme sont les comportements parfaitement spécifiés, la terreur, la panique, pourrait donner des disciplines qui, jusque-là, étaient inconnues. Alors, on a connu ces tentatives. Par exemple, quantité de linguistes, depuis le début du XXe siècle, se sont dit « je vais enfin donner un véritable statut de science aux sciences du langage, par exemple en les mathématisant ou en utilisant d'autres concepts. » Et on s'aperçoit à chaque fois que ce n'est pas si facile de construire des noyaux de rationalité. Certes, on peut chipoter sur ce que c'est qu'un mot ou un adjectif, sur ce que c'est que l'autorité ou le pouvoir, mais il n'empêche que ces concepts ont derrière eux le poids d'une élaboration, je veux dire, une façon d'envisager le réel, de le découper, qui nous permet de le maîtriser. Il y a de nouvelles techniques mathématiques qui sont apparues. Je pensais évidemment tout à l'heure, en parlant de mathématisation de la linguistique, aux grammaires formelles. Mais dans le domaine de l'économie ou même du comportement social, il y a la théorie des jeux. C'est-à-dire cette façon que j'ai de calculer comment vont se comporter tels et tels acteurs au sein d'un groupe qui sont astreints à telle ou telle tâche. Bon, c'est vrai, il y a des nouveautés, mais qui dit nouveauté ne dit pas nécessairement naissance de nouvelles disciplines, ni renvoi dans le passé de tout ce qui ne serait plus d'un seul coup qu'un fatras de réflexions incohérentes et qui n'aurait jamais connu la confrontation avec la réalité ou avec les faits. Je crois que lorsqu'on parle de science, il ne faut jamais abandonner l'idée que dans la science, il y a nécessairement de l'invention contrôlable, datable, et de la cumulation des résultats. Une science sans histoire, ça n'a pas de sens. L'idée qu'on devrait à chaque génération réinventer de nouvelles sciences, cela n'a pas de sens. La science, justement, est quelque chose qui transcende les individus, qui fait que, de génération en génération, l'héritage des expériences, des concepts, de l'extension de la représentation du monde peut se transmettre et se systématiser. Alors, effectivement, il y a des révolutions. Je veux dire, nous savons bien que nous sommes passés assez rapidement, entre le XVIe et le XVIIe siècle, d'une astronomie ptolémaïque, où la Terre est le centre de l'univers, à une astronomie copernicienne. Bon. Nous sommes passés d'un univers perçu qualitativement à un univers quantifié, construit selon des lois mathématiques, je veux dire en général à cette époque-là, des fonctions analytiques de variables réelles. Dans le domaine des sciences de l'homme, aussi, il y a eu des révolutions. L'homme médiéval, porteur d'âme, de vertus, d'humeur, c'est quelque chose qui n'existe plus après la Renaissance. Après la Renaissance, l'homme devient cette réalité que va nous définir la philosophie cartésienne, prise dans un dualisme entre le fait d'être une partie du monde, même si mon corps est un corps propre avec qui j'ai un rapport particulier, et d'appartenir à un autre ordre de fait, ce que Descartes appelle justement l'âme, et qui est le domaine de la signification, des intentions, etc. Il n'y a plus cette appartenance profonde à une hiérarchie des êtres dans le monde tel que l'ordonnait le cosmos médiéval. Le monde même, pour l'être humain, à partir de la Renaissance, n'est plus le même. Imaginez ce qu'il peut être pour un pêcheur du XIVe siècle sur la côte bretonne et ce qu'il est au XVIIIe siècle pour un jeune marin de Saint-Malo qui s'embarque pour aller coloniser quelques terres aux Amériques. Il n'y a plus la même représentation de ce qu'il y a au-delà de la mer, de ce que je suis. Il y a eu même des controverses terribles au XVIe siècle, lorsque nous avons rencontré d'autres hommes, controverses qui prenaient certes les formes des débats de l'époque. Ces êtres-là que je rencontre ont-ils une âme? S'ils ont une âme, elle est semblable à la mienne, et ils sont comme moi des fils de Dieu. Mais n'empêche, questionnement qui changeait totalement le statut de l'homme. Mais je dirais que, plus encore que dans les sciences de la nature, dans les sciences humaines, il y a une continuité des contenus. C'est-à-dire que, prenez l'exemple, encore une fois, des langues. On fait des grammaires. Qu'elles soient descriptives, empiriques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'importe. Et puis, à partir de la Renaissance, on découvre d'autres langues et on en fait des grammaires dans notre style gréco-latin, hein, ce que l'on appelle la révolution technologique de la grammatisation. Entre les Grecs et le 8e siècle, cinq langues à peu près avaient bénéficié de grammaire. Entre 1492 et 1836, on est passé à 600. Eh bien, il est clair que, quand bien même il y a des révolutions, quand bien même, façon d'envisager le langage, en particulier le langage d'autrui, hein, est différente, il est clair que dans le contenu, on ne peut pas remettre à plat toutes les grammaires à chaque fois que quelques concepts changent. Par conséquent, l'idée que les sciences humaines vont enfin devenir des sciences sous l'influence de quelques nouvelles théories mathématiques, quelques façons pour les mathématiques d'envisager le réel, par exemple la théorie de la complexité, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, mal pensé et mal exprimé. Nous atteindrons peut-être de nouveaux phénomènes, nous obtiendrons peut-être de nouvelles explications, encore faudra-t-il réfléchir sur ce que veut dire explication, mais en tout état de cause, ça n'élimine pas, une fois pour toutes, tout ce qui s'est passé avant, sauf à penser que ce qui définit une science, c'est un style, et qu'à tout nouveau style, il y a une nouvelle science. Donc, le creux, le contenu de ce que nous concevons par science, ce sont les inventions. Qu'est-ce que c'est qu'une invention en matière de sciences humaines ? Ben, ce n'est pas différent de ce qu'il y a dans les autres sciences. Je veux dire, il s'agit de recouvrir sous un concept un phénomène canonique bien répertorié ou de construire une explication d'un problème posé par des phénomènes canoniques bien répertoriés, etc., etc. C'est vrai, la loi de chute des corps est une invention, la loi des aires de Kepler aussi, mais le concept d'ergatif est aussi une invention. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ergatif ? Je crois que il est vrai, les sciences humaines ont moins, je dirais, de représentation publique que les sciences de la nature, on en parle moins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sait davantage ce qu'est un quark que ce qu'est l'ergatif. Et pourtant, l'ergatif est quelque chose de fondamental pour la représentation que nous avons de la façon de penser et de l'universalité de nos langages. La plupart des langues que nous connaissons, elles ont ce que l'on appelle une construction ergative, c'est-à-dire que nous considérons que les verbes transitifs ont un objet et que cet objet est essentiellement différent du sujet, que lorsque sujet et objet sont marqués par des cas, l'objet est marqué par l'accusatif. Eh bien, il y a des langues où ce n'est pas ainsi. Il y a des langues où le sujet des verbes d'état, verbe être, et l'objet des verbes transitifs sont au même cas. Et où le sujet des verbes transitifs est à un autre cas. C'est ce que l'on appelle une construction ergative, une façon différente d'analyser la réalité, de la représenter dans le scénario de la proposition. L'ergative a été découvert en 1638 par un monsieur qui faisait une grammaire du basque. Découverte, je dirais, même sens, un type aussi importante que n'importe quelle autre découverte dans n'importe quelle autre science. Et oublier qu'il y a des découvertes, oublier qu'il y a des inventions, et se dire que demain, nous aurons de nouvelles sciences, encore une fois, c'est tomber dans la superficialité et l'outrecuidance. Je crois que derrière tout cela, il y a aussi un problème que l'on manque souvent et sur lequel je voudrais terminer cette conférence. C'est le problème du rapport de la science et de la technologie. ou de la technique. Bon. Alors, nous n'allons pas tarder sur la définition de la technique, mais disons simplement qu'il y a des savoir-faire qui sont dans nos habitudes, dans nos corps, dans nos mémoires, que nous apprenons par imitation. Bon. Ça existe pour la poterie, ça existe pour la chasse, mais ça existe aussi pour des éléments qui concernent les sciences humaines. Il y a du savoir-faire pour la poésie, il y a du savoir-faire pour le commandement, il y a du savoir-faire pour la guerre. Ce savoir-faire, il peut s'exprimer par des règles. Et il y a en quelque sorte extériorisation et formalisation du savoir-faire. Et c'est avec les règles, comme le pensaient déjà les Grecs, qu'on passe effectivement du savoir-faire à la technique. Il y a savoir-faire quand, par mon expérience cumulée, je sais faire ce qu'il faut pour réussir le plus souvent, sans que ce soit toujours pareil. Il y a technique lorsque, en suivant la règle, je suis sûr d'arriver à tous les coups à ce que je souhaite. Eh bien, il est tout à fait évident que dans les sociétés orales, il y a des règles que l'on transmet oralement, au travers d'histoires, de mythes, etc. Et dans les sociétés écrites, eh bien justement, ces règles deviennent fixes et contraignantes. Je crois que l'écriture est nécessaire pour passer du savoir-faire empirique à véritables techniques. Mais je m'exprime là avec une excessive précision. De manière générale, on donne une extension plus large à la technique. Eh bien, je crois que dans le domaine des sciences humaines, comme dans domaine des sciences de la nature, savoir-faire et technique précèdent bien souvent la représentation scientifique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, de même que l'arpentage, l'inventaire des biens, tout cela a sûrement précédé les mathématiques, eh bien, il est clair que les règles pragmatiques, la poésie, ont précédé la grammaire, et je dirais même que les pratiques politiques se sont probablement instaurées avant qu'elles ne soient codifiées. Ceci dit, lorsqu'elles sont codifiées, c'est à partir de ce moment-là que leur changement pose problème. Je pense même que il en va ainsi même dans beaucoup des sciences humaines modernes, qu'il y a un rapport entre la technique et le savoir scientifique. Je peux prendre un exemple très général dans le domaine des sciences du langage. Aujourd'hui, nous pensons que la signification d'un mot est une valeur. C'est-à-dire que un mot n'a de sens de signification que par opposition à un autre mot qui délimite son domaine. Si je parle d'un mouton, c'est par opposition à une brebis ou à une vache ou à une génisse. Et c'est une définition théorique de ce qu'est la signification, ou comme on dit, le signifié. C'est ça qui nous permet de saisir ce que c'est que le langage. Eh bien, d'où ça vient? Je crois que ça vient de pratiques nées à la fin du XVIIe siècle et concernant la synonymie. C'était quasiment un jeu de société à la fin du XVIIe siècle que de donner pour des synonymes des définitions avoisinantes mais distinctes de façon à contraindre le locuteur à les employer dans des contextes différents. Par exemple, copier et imiter. Voilà de bons synonymes. Mais, dans le jeu de société, on explique qu'on imite par admiration et qu'on copie par servilité. Les mots ne sont pas interchangeables. Et on a construit des dictionnaires de synonymes sur ce modèle. Donc il s'agissait de trouver la plus petite différence en opposition entre deux mots. Un dictionnaire, c'est vraiment un objet technique. Ça existe en dehors de nous. Ça a une durée de vie qui excède les changements théoriques. Ça se reprend par parties, ça se bricole, etc. Eh bien, vous avez là l'exemple d'une technologie, d'objets techniques qui sont à l'origine d'une conception théorique très profonde qui définit la signification linguistique. Alors tout ça, et je terminerai ma conférence d'aujourd'hui sur ce chapitre, pour dire que finalement, prise globalement, les sciences humaines ne sont pas tellement différentes des autres disciplines. Elles ont leur ancienneté, elles ont connu leur changement, sont apparus de nouveaux objets, elles ont des rapports aux technologies. Même, on peut les mathématiser à condition de développer des techniques mathématiques qui leur sont spécifiques. J'en ai cité deux. Grammaire formelle, théorie des jeux, il y en a d'autres qui leur conviennent également. Je crois simplement que l'utilisation des fonctions analytiques qui a fait les grandes heures de la physique classique est quelque chose qui n'a pas cours dans les sciences humaines, en particulier parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de constante dans les sciences humaines. Mais les sciences humaines, si on les regarde dans leur spécificité, si on les observe, si on s'efforce de les décrire, eh bien, sont bien des sciences au plein sens du terme. Il faudra simplement préciser si ce sens est exactement le même que celui que nous avons lorsque nous parlons de sciences de la nature. Et par conséquent, le vrai problème, c'est cette question du rapport entre les sciences humaines et les sciences de la nature.